artistes là-bas, ainsi que... Oui, si nous demandons... Papa Pasteur Jean-Baptiste, bonjour, bonsoir.
Bonsoir, bien-aimé, Pasteur José. Oui.
Oui, merci. Pouvons-nous te demander la prière d'introduction?
OK. OK, prions
Ah.
le Seigneur. Prions.
Ok.
Notre Dieu, notre Père, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance pour le privilège que tu nous offres de nous retrouver autour de ta parole pour l'étudier, la méditer. Nous avons besoin de toi. Éclaire notre intelligence pour que nous puissions comprendre les merveilles de ta loi et qu'elle révolutionne notre manière de vivre pour la seule gloire de ton nom, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Amen.
Amen. Oui, merci beaucoup, pasteur. Maman Pétronelle.
Oui, papa José.
Oui, tu peux lire là où nous sommes terminés hier. Tu lis à partir du verset 14 jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au verset 21.
Ok, nous lisons pour la gloire de notre Dieu le chapitre 49 du psaume, du verset 14 au 21e. Mais voici le sort de ces gens pleins d'assurance. Voici quel est l'avenir de ceux qui aiment tant s'entendre parler. On les pousse comme des moutons vers le monde des ombres. La mort est leur berger. Ils descendent tout droit dans la tombe. Leurs formes s'évanouissent. Le monde des ombres devient leur demeure. Mais Dieu consent à me délivrer. Oui, il m'arrache aux griffes de la mort. Ne t'inquiète pas si un homme s'enrichit et s'il augmente son train de vie. Quand il mourra, il n'emportera rien. Ses biens ne le suivront pas dans la tombe. De son vivant, il a beau se dire heureux, se féliciter que tout aille bien pour lui. Il lui faudra pourtant rejoindre les générations qui l'ont devancé et qui ne verront plus jamais la lumière. Pourtant, au milieu de son luxe, l'homme ne comprend pas qu'il va vers sa fin comme un simple animal. Amen.
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 Oui. Merci beaucoup. Pourtant, au milieu de son luxe, l'homme ne comprend pas qu'il va vers sa fin comme un simple animal. Bien-aimés, nous avons été bénis hier par la méditation de ce psaume qui est non seulement un chant, mais un chant de réflexion, un chant qui nous enseigne, qui contient beaucoup de leçons, surtout sur les richesses de ce monde. Et ce psaume s'adresse à tous les humains. Tous les humains, pauvres ou riches, petits ou grands, hommes ou femmes, tous les humains, jeunes ou vieux. Et ce psaume, nous avons dit hier que, suivant le verset premier, il est écrit par la confrérie de Corée, ou les fils de Corée, ça dépend de la version. La version français courant parle de la confrérie de Corée, tandis que Louis Segan parle des fils de Corée. Les fils de Corée sont effectivement, ou bien on peut dire, ont échappé à cette mort brutale qu'a connue leur père. Selon le témoignage, nous pouvons prendre notre Bible pour jeter rapidement un coup d'œil sur ce que nous dit le livre de Nombres au chapitre 26. Nombre chapitre 26, si nous lisons à partir pour avoir une idée, nous connaissons, puisque nous avons la parole avec nous, mais pour avoir une idée, on peut aller au verset 9 jusqu'au verset 10. Et 11, pardon. Selon Louis Segan, fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram, c'est ce Dathan et cet Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée, lors de leur révolte contre l'Éternel. Nous continuons. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Verset 11. Les fils de Corée ne moururent pas. Oui. Ils ne moururent pas. Et c'est bien eux qui ont écrit beaucoup de psaumes. L'événement de la mort brutale, non seulement de leur père, mais aussi de tous les autres Israélites rebelles, cet événement leur a ouvert les yeux du cœur. Ils n'ont pas suivi leur père. Et ce sont là, ces enfants étaient des bons exemples à suivre et de se révolter contre Dieu, à Dieu, le Dieu qui a tué notre père. Tournons le dos à ces dieux. Non. Glorifions ces dieux. Magnifions ces dieux. C'est vraiment un très bon exemple. Merci. La suite que nous venons de lire, en gros, suit la même direction pour montrer l'inefficacité de la richesse. Oui. La nullité même de la richesse. Cela ne veut pas dire que la richesse est mauvaise. Non, nous ne disons pas ça. Parce que c'est Dieu qui enrichit, selon la parole. C'est Dieu qui enrichit et c'est Dieu qui appauvrit. Alors, si il enrichit, la richesse n'est pas mauvaise. Voilà. Mais ça dépend maintenant de la façon dont on se conduit vis-à-vis des richesses. Voilà. Je m'arrête ici, bien-aimé. Je vous donne la parole pour terminer ce psaume que nous avons commencé hier. Vous avez la parole, bien-aimé. Tu veux commencer? Ok. Le modérateur reprend la parole. Le dernier verset que nous avons lu hier nous dit ceci. Pourtant, au milieu de son luxe, l'homme ne comprend pas qu'il y va vers sa fin comme un simple animal. Et c'est bien cet homme riche qui a donné toute sa confiance en ses richesses, qui a oublié que la mort est là. Alors, il est comparé à un simple animal, à un mouton, par exemple. Il ne sait pas que la mort est devant lui. Tout à coup, il se voit attrapé et puis égorgé. Oui. Alors, le verset 14 nous dit, dans la version française courante, mais voici le sort de ces gens pleins d'assurance. Hein, on parle des riches. Ces gens pleins d'assurance, voici l'avenir de ceux qui aiment tant s'entendre parler. Donc, le verset dit la même chose sous deux formes. Donc, c'est la même chose. Voici le sort de ces gens pleins d'assurance. Voici quel est l'avenir de ceux qui aiment tant s'entendre parler. Toujours ces gens-là. Donc, oui, il y a un sort qui les attend. Qui les attend. Et ce sort est inévitable. Ce n'est pas seulement les riches qui meurent, non, les pauvres aussi. Ce n'est pas seulement les sages qui meurent, mais les insensés aussi. Ce n'est pas seulement le grand qui meurt, mais c'est aussi le petit. Et ainsi de suite. Donc, c'est un sort commun. Un sort commun à tous les mortels ou à tous les humains, et même les autres créatures, mais nous sommes, nous parlons des hommes, de nous. Ah, c'est ce que ce verset nous dit. Oui, je vois la main de Papa Célestin.
Oui, merci Papa pour la parole.
Oui.
Le verset 15 fait une comparaison. C'est comme un troupeau, ils sont mis dans les séjours de mort. Et la mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit et les séjours des morts est leur demeure. Ça, ce sont les hommes qui vivent sur cette terre sans espérance. Sans espérance dans le sens que pour eux, mangeons, vivons, menons la vie, mais sans oublier que la vie ne s'arrête pas sur la terre. Et quand nous nous rappelons que nous avons quelqu'un qui a vaincu la mort et que la mort devient pour ceux qui croient comme étant une porte pour aller dans l'éternité, pour vivre la vie. Donc, je devais mettre un numéro sous mute pour éviter éviter le bruit là que nous avons entendu. Donc là, je vais, Papa José, je m'excuse de donner la référence là où nous sommes pour que ceux qui viennent de s'ajouter à nous ne soient pas dépaysés.
Oui, c'est bien.
Oui, nous sommes en psaume 49. Nous avons commencé à méditer à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Et là, nous sommes au verset 15 que je suis en train de partager avec ceux qui voient la mort comme étant la finalité où tout s'arrête. Et la mort est leur berger. Ça signifie qu'ils ne connaissent même pas qu'est-ce qui va se passer après la mort. Mais nous savons au moins que nous avons un Seigneur qui a vaincu la mort. Nous avons quelqu'un qui a réellement remporté la victoire sur la mort. Et tous ceux qui vivent en lui ont la victoire déjà sur la mort. Parce que c'est au travers de la mort que nous pouvons vivre la vie éternelle dans toute sa plénitude. Et nous bénissons le Seigneur pour la vérité de la mort qui a été vaincue. Ô mort, quel est ton guillon qui a été vaincu? Et ceux qui sont en Jésus-Christ sont vainqueurs aussi de la mort. Merci.
Merci beaucoup. Oui. La mort est vaincue par le Seigneur Jésus et à travers lui, les croyants vont aussi vaincre la mort. Donc, on n'a pas de crainte. On n'a pas de crainte. Un enfant de Dieu, quand le moment arrive, il a plutôt la joie. Et avant, il a peur. Je me rappelle de papa. On dit que quand il a vu venir la mort, il s'est précipité pour laver. Il a demandé de beaux habits, il a prié. Et donc, quand le moment-là arrive, l'enfant des yeux se précipite pour aller. Tandis qu'une autre personne, celui qui ne croit pas, il a plutôt les grincements des dents, des pleurs, que sais-je. Donc, c'est ça. Et c'est la parole nous dit la vérité. Merci beaucoup. Je donne tour à tour la parole au pasteur Jean-Baptiste, à maman Christine, au pasteur Samuel, au pasteur Emmanuel et à maman Petronelle. nous nous arrêtons d'abord à ces cinq mains et puis nous allons voir après. Et chacun sait combien de temps il prend, tout au plus 2 minutes ou moins que cela, pour permettre à tous les frères, à toutes les sœurs de parler. Papa Jean-Baptiste.
Oui, merci beaucoup, Papa José, pour la parole. Je voudrais prendre les versets 15 et 16. Alors, le verset 15, on les pousse, on pousse les incroyants vers la tombe comme un troupeau de moutons. Oui, la mort en fait sa pâture. C'est effroyable. Ensuite, un peu plus loin, loin de leur demeure, de leurs habitations, au séjour des morts, leur forme extérieure s'évanouira. Alors, je m'arrête là. D'abord, ça c'est le verset 15. Alors ici, le séjour des morts est considéré comme étant le berger des riches orgueilleux, des incroyants. Mais au lieu de les paître, comme un berger paie son troupeau, eh bien, il les dévore. Il les dévore. Et par contre, David, lui, dans le psaume 23, verset 1, avait plutôt dit ceci, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et l'apôtre Jean, en 1 Jean 5, 12, avait dit, « Celui qui a le Fils a la vie. » Mais ici, mes amis, les fortunés, ceux qui ont placé leur confiance dans les richesses, les incroyants, ont dû quitter leurs habitations magnifiques d'autrefois. Et ce corps qu'ils ont tant soigné avec toutes sortes, n'est-ce pas, d'objets, n'est-ce pas, de luxe, des poudres, des lotions, des crèmes, ou de la chirurgie esthétique pour embellir ce corps. Mais, hélas, une fois en terre, ce corps s'abîme, se putréfie, pue, sent mauvais, et sert de nourriture à toutes sortes de micro-organismes. Alors, pour les justes, pour ceux qui croient en Jésus-Christ et qui ont dû subir l'injustice des riches, incroyants, qui les dominaient, la mort de leurs oppresseurs, comme dit le psalmiste, est comme le matin après la nuit. Ils peuvent aller marcher sur la tombe, n'est-ce pas, de ces incroyants. Évidemment, ce n'est pas un acte tout à fait agréable, mais c'est ce que dit le psalmiste. Alors, au verset 16, il continue. Le psalmiste dit, « Dieu rachètera ma vie du séjour des morts, car il me prendra. » Et puis, pause au verset 16. Détente. Donc, au milieu de cette description tragique et effroyable de la destinée finale de l'homme incroyant, le psalmiste exprime sa conviction que la mort n'aura pas le dernier mot sur lui, le psalmiste, en tant que croyant. Et il mentionne très simplement sa foi en la résurrection. Évidemment, il ne développe pas ce sujet. Alors, la pause permet justement au lecteur de méditer sous l'espérance de la vie éternelle. Le croyant en Christ sait que Dieu le Père a le pouvoir de le racheter de la mort, tandis que l'incroyant est livré sans espoir au séjour des morts. Et toutes les richesses de la terre ne peuvent pas, évidemment, arracher l'incroyant de la mort. Impossible. Alors, ce qui compte, n'est-ce pas, dans cette vie, ce n'est pas d'être riche ou pauvre, mais de placer sa foi en Jésus-Christ pour l'éternité. C'est la seule condition pour échapper à cette pourriture, à ce désastre qui a été décrit par le psalmiste ici. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ seul qui l'offre et qui nous permet de vivre éternellement au-delà de la mort physique. Amen.
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 Merci beaucoup, frère. Merci. Nous donnons la parole à notre sœur, maman Christine.
Merci,
vous avez
papa.
2 minutes, ma sœur.
Ok. Oui, juste une question que je me suis posée, parce que tout ce que je voulais dire, papa l'a dit. Hier, papa a parlé, disant que en tant que pasteur, des fois on l'appelle pour faire un sermon pendant la veillée funéraire peut-être, et quand, dire que on accompagne tel frère, telle sœur à sa dernière demeure, c'est une erreur, il ne faut pas dire ça. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et ma question se base là-dessus. Et quand je regarde la dernière phrase du verset 15 où il est dit « Le séjour des morts est leur demeure », qu'en est-il alors? Parce que hier, papa dit que la tombe, ce n'est pas la dernière demeure. Alors, le séjour des morts, la tombe, c'est la même chose bien comment? Si vous pouvez m'éclairer un peu là-dessus, s'il vous plaît. Merci.
Oui, très rapidement, si papa peut dire un mot très rapidement à la question de notre sœur. Papa Célestin.
Ok, papa, merci, parce que nous savons que tout ne s'arrête pas à la mort.
Mm-hmm.
Donc, en tant que chrétiens, nous connaissons que c'est le corps qu'on amène, mais réellement la personne est soit auprès de Dieu, soit auprès de Satan, s'il n'a pas donné sa vie au Seigneur. Mais la personne, c'est pas le corps qu'on dépose là, la personne n'est plus là. Donc c'est ce qu'on peut dire pour gagner du temps. Merci.
Oui, c'est-à-dire que notre corps à un endroit où il se repose. C'est la tombe. Oui. Et elle va rester là. Tandis que notre âme, notre moi, le vrai, c'est ça va quelque part pour attendre la venue du ressuscité. Mais quant au corps, la tombe, c'est un endroit où nous restons. C'est notre dernière adresse sur la terre. Oui, adresse. Dernière adresse sur la terre, c'est la tombe. Mais la personne même n'est pas là. Et ce corps va rester jusqu'à la venue du Seigneur. Ça va se transformer et ça va partir avec le Seigneur. Donc, il n'y a pas de contradiction. OK. Pasteur Samuel?
OK, merci. Il y a le frère Malembe qui a dit
oui,
peut-être
parfait,
ce que je voulais dire au verset 15. Mais je pourrais tout simplement dire dans ce verset-là l'aspect de beauté extérieure. Je crois que Pierre nous parle de parle quelque part en disant, en s'adressant, je crois, là, c'était aux dames pour dire que n'ayez pas seulement, n'est-ce pas, cette beauté extérieure qui consiste en des cheveux tressés, des ornements d'or et autres, pour montrer un peu la beauté du corps physique qui est éphémère et qui s'arrêtera quelque part. Mais qu'il faut que nous ayons un bon dépôt, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, et que nous ayons la vie, une bonne vie à vivre avec le Seigneur. Mais je voulais juste dire au verset 17, parce que les autres versets ont été déjà abordés. Ici, au verset 17, ce qui me plaît, c'est de voir la parole que le psalmiste dit ici, ne sois pas dans la crainte, car un homme s'enrichit, car la fortune de sa maison s'accroît, car il n'emportera rien en mourant. Sa fortune ne descend pas à sa suite. Pour dire que nous soyons, d'abord que Dieu n'est pas contre la richesse, mais c'est que Dieu veut et que nous lui appartenions en propre. Et je crois que ce texte nous apprend aussi à vivre en comptant sur le Seigneur, que nous ayons des richesses ou que nous soyons dans la pauvreté. Parce que le texte nous montre enfin que nous n'emporterons rien. N'est-ce pas? Nous sommes venus nus dans ce monde, nus, nous retournerons aussi. Donc nous n'avons pas emporté quelque chose de ce monde. Mais cela ne veut pas dire que nous ne puissions pas travailler, que nous ne puissions pas à vivre d'une manière décente non plus. Mais seulement, le texte insiste sur le fait que nos cœurs doivent, nous devons appartenir au Seigneur totalement. Merci.
Merci beaucoup. Nous donnons la parole à notre frère, pasteur Emmanuel.
Merci beaucoup, mon frère. Je voulais revenir sur le verset 16. Et le commentaire a été déjà fait. Je voulais tout simplement insister sur la manière dont les psalmistes s'approprient en utilisant le mot « mon âme ». Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. Mon âme. Ici, je tire une leçon. C'est laquelle est que l'homme, devant la mort, il est seul. Souvent, nous parlons moins de la mort, et je suis content que nous puissions parler de la mort parce qu'on en parle moins. Surtout chez nous en Afrique, donner des enseignements sur la mort, si vous invitez les gens de parler de la mort à l'église, ils ne viendront pas. Parce que la mort, on la craint beaucoup. C'est pourquoi on n'en parle pas beaucoup. Mais la mort est réelle. Mon âme, dis bien mon âme, c'est-à-dire devant la mort, on est seul. Personne ne vous accompagne. Vous êtes seul à seul face à la mort. Et aussi bien, comme nous avons déjà parlé, le bien ne vous accompagne pas. Donc, ni le bien, ni les autres, vous êtes seul. Et pour répondre un tout petit peu à la question de la sœur qu'il a posée au pasteur Célestin, notre dernière demeure, ce n'est pas les dernières notre dernière demeure. Pourquoi? Parce que, vous savez, au fond, quand on enterre l'être humain, la réalité est qu'on se débarrasse d'un corps qui va pourrir. C'est ça la réalité. On n'en parle pas souvent, mais c'est justement ça. Parce que ce corps, si vous le mettez quelque part dans la maison, si vous le gardez avec le corps d'un chien, ça va pourrir de la même manière. Et à ce moment-là, nous nous ressemblons à tout autre animal. Il n'y a pas de différence. Et quand on nous amène dans la tombe, nous ne serons pas là. C'est là où nous sommes en face de Dieu. Et c'est là notre dernière demeure que Jésus-Christ est allé préparer pour nous. C'est pourquoi lui, dans son expérience, il dit, lui, son âme ne va pas connaître la forme de ce jour de mort. Et il ajoute en disant, Dieu le prendra sous sa protection. Donc il n'a pas peur, et le reste, vous en avez déjà parlé. Je voulais seulement te dire et nous partager sur ce point, notre âme va se reposer. Ici, nous allons voir une autre chose, c'est que nous sommes sauvés, c'est vrai. Il faut que nous soyons certains que nous sommes sauvés. Mais nous serons aussi sauvés. Donc nous sommes sauvés et nous serons sauvés. C'est le déjà et le pas encore. C'est déjà le passé, nous sommes sauvés quand nous avons accepté le Seigneur. Et nous attendons encore un autre salut, un peu plus grand, le moment où le Seigneur nous protégera. Donc en ce moment, nous sommes sauvés tout en étant certains. Il faut que nous tous soyons très certains que nous avons le salut et nous aurons aussi le salut. C'est pourquoi la crainte n'a pas de place dans nos cœurs. Merci.
Merci. La parole est donnée à notre sœur Viviane.
Oui, béni, bien-aimé. J'ai apprécié les intervenants qui sont passés avant moi. Tout ce qu'ils ont dit m'a beaucoup instruit. Cependant, quand je regarde l'ensemble de ce psaume, je me dis que nous pouvons considérer que On nous apprend à vivre avec détachement de tout ce qui est de la terre, des richesses, de tout ce qui fait la gloire de ce monde. Car c'est au ciel que nous aurons la vraie gloire, que nous aurons l'élévation qui convient. Si nous réfléchissons, Jésus a parlé de cet homme qui était riche et du pauvre Lazare. Il disait que celui-là, il a eu sur terre. Le riche avait eu ce qu'il fallait sur terre. Mais Lazare, lui, c'est au ciel qu'il s'est réjoui. Par ailleurs, je dirais aussi que le psalmiste de ce jour a parlé aux hommes de son temps. C'est vrai, il nous apporte à nous aussi matière à réflexion. Mais nous qui vivons aujourd'hui, nous voyons que nous sommes mieux que ceux-là parce que Jésus-Christ est déjà venu. Et il a été déclaré que lorsque l'homme mourra, celui qui a été avec Christ, c'est le corps qui va à la terre, qu'il a créé, mais l'âme va rejoindre, va vers l'éternel qu'il a créé. Donc, nous devons nous réjouir d'être de ceux-là qui ont une autre espérance, de ceux-là qui ne connaîtront pas ce sort réservé à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et cela, pour nous, est une faveur. La Bible déclare quelque part aussi que ceux qui meurent en Christ ne meurent jamais. Raison de plus pour que nous puissions nous considérer comme les hommes les plus heureux sur cette terre. Parce qu'au moins nous savons que si nous demeurons fermes jusqu'au bout dans notre foi, ce sort, nous ne le connaîtrons pas. Voilà ma petite réflexion, ma part de ce que j'ai cru comprendre à travers cette somme.
Merci beaucoup, notre sœur. Nous donnons la parole à notre sœur Pétronelle.
Merci, Papa José, pour la parole. Je rentre tout simplement au verset 1er, donc le 14e. La phrase qui m'a touchée un peu, plus, c'est « Mais voici le sort de ces gens pleins d'assurance. » Le sort de ces pleins qui ont l'assurance, donc je parle de riches qui ont de l'assurance de leur façon de vivre. Alors, j'ai beaucoup pensé justement à ce que ma sœur vient d'évoquer, l'homme riche et Lazare qui se tenait à sa porte. Et l'homme riche qui avait toute l'assurance et il était vraiment aveuglé par sa richesse, par ses banquets, ses fêtes, pour ne pas voir le malheureux qui traînait juste devant sa porte. Et le riche, donc, comme disait Papa José tout à l'heure, que la richesse n'est pas mauvaise du tout, mais c'est l'utilisation. Donc, ce riche, on a vu qu'il a tout simplement manqué d'assistance à ce pauvre Lazare qui se tenait juste devant sa porte. Il voulait même manger ce qui tombait, mais il ne pouvait pas en avoir. Et au séjour de mort, on voit bien où est-ce qu'il a fini? Au séjour de mort, il voulait plaider la cause de ses frères, mais c'était déjà trop tard. Et Tata Abraham répondait que tes frères n'ont qu'à écouter les prophètes qui sont là-bas. C'est comme nous, aujourd'hui, nous sommes ici, et nous n'avons qu'à écouter, c'est justement le premier verset, le deuxième verset qui disait « Vous les humains, écoutez ceci. » Donc nous avons tout intérêt à beaucoup écouter, être attentif à ce passage qui nous donne tant de leçons depuis hier pour que nous puissions dès maintenant, quand je suis riche, que je suis aisé, que je sache utiliser la richesse pour l'œuvre de Dieu. Et que je sois pauvre, que je sache ne pas envier le riche. je suis pauvre et j'ai de la jalousie. Non, que je n'envie pas aussi ceux qui sont riches, parce que le sort du riche et du pauvre, c'est toujours la mort. Mais dans la mort, on sait où chacun doit aller selon le comportement qu'il a affiché, selon l'attitude qu'il a affichée, selon la foi qu'il avait en Jésus-Christ et selon l'amour qu'il a apporté de son Dieu ou bien de son prochain. Voilà ce que je voulais ajouter aussi.
Merci beaucoup. Nous donnons la parole à papa Jean-Pierre ou à maman Véro.
Merci.
Vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Donc moi, j'ai voulu, tout en parlant de cette parole aussi dure concernant les personnes qui mettent confiance en leurs biens et qui, parfois, dans leur jouissance et les honneurs qu'ils ont dans ce monde, ne pensent pas qu'une fin viendra. Je me dis, même les rois de ce monde qu'on a honorés, qu'on a considérés comme les grands, ils sont tous descendus au séjour des morts. Et moi, je suis heureuse parce que Jésus-Christ lui-même nous a parlé de cette réalité. D'abord, dans ce qu'on a évoqué, Lazare et le riche, mais aussi quand on voit Étienne, il est lapidé parce que à cause de sa foi en Jésus-Christ, il est lapidé et ses yeux s'ouvrent, il voit le lieu où il ira. Et même les brigands qui étaient à la croix avec Jésus-Christ, parce que c'est là que tout a commencé pour notre rachat, on voit que celui qui a regretté ses fautes, malgré qu'il était mauvais, malgré qu'il était bandit, peut-être qu'il a volé, il s'est enrichi peut-être malhonnêtement, mais on voit que le fait d'avoir regretté, lui qui est pécheur, d'être mis à la croix aux côtés de Dieu, de Jésus-Christ qui est saint et qui n'a fait aucun mal, et que nous pouvons nous souvenir qu'il a nourri les affamés, il a guéri, il a purifié les lépreux, il a guéri de toute maladie et de toute infirmité. Nous avons entendu que Jésus-Christ a dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. C'est-à-dire, je suis convaincue que ceux qui descendent au séjour des morts, ce sont ceux qui n'ont pas fait cas à l'existence ni au salut que Jésus-Christ nous a apporté malgré la résurrection. Il y en a aujourd'hui qui sont fiers de dire qu'ils sont athées et ils trouvent comme si ça fait classe, comme s'ils ont une nouvelle dimension, une nouvelle compréhension. Mais ce n'est que de la vanité. Et moi, je prie vraiment que ceux qui croient dire qu'ils sont en colère à cause de Dieu parce qu'il a laissé la mort sur terre, qu'ils se souviennent que quand leurs parents vieillissent, ce sont les premiers à regretter de ne pas vivre leur vie parce que le papa est déjà vieux, mais qu'il meure lui aussi. Pourquoi il est là? Et même le corps d'un vieux, il ne l'aime plus. Il n'aime plus. Ce n'est qu'une tente, comme Paul le disait. C'est une tente. Ça nous a gardé pendant le temps de notre vie sur terre. Mais ce n'est pas ça le corps de gloire que Dieu a donné à son peuple qu'il aime et qui est sauvé en Jésus-Christ. Merci.
Merci beaucoup. J'aimerais, bien aimé, pour les quelques minutes qui restent, que nous basions sur des versets. Il nous reste 18, 19, 20, 21. Je prends le 18e verset. Quand il mourra, il n'emportera rien. Ses biens ne le suivront pas dans la tombe. Ses biens ne le suivront pas dans la tombe, car il n'emportera rien. C'est une sagesse que le psalmiste nous montre ici, non seulement à ceux qui sont beaucoup, mais aussi à nous tous. Mais aussi à nous tous. Aux riches qui ont, ils doivent savoir que il n'emportera rien. Et les biens qu'il a ne le suivront pas. Il l'a. Et pour celui qui n'a pas, cette même vérité reste. Parce que celui qui n'a pas, il s'inquiète. Celui qui n'a pas, il accuse Dieu. Il accuse même les hommes. Nous autres, nous sommes venus sur cette terre pour accompagner les autres. Nous, eux, ils ont tout, nous avons rien. C'est Dieu qui a fait ça. Et la parole nous dit, et à celui qui a et à celui qui n'a pas, quand la mort interviendra, on n'apportera rien. Oui. Et les biens de la terre ne suivront personne. Alors, nous tous là, nous devons avoir la même pensée. Ah, c'est vrai, quand on meurt, on n'apporte rien. Oui, c'est vrai, parce que quand on est venu sur cette terre, on n'avait rien aussi. Ce sont les autres qui nous ont habillés. Et quand nous partirons, c'est la même chose. Si la mort nous trouve dans la famille, ce sont eux qui vont s'occuper de nous, ou ailleurs, où il y a quand même des services qui s'occupent des morts. On va s'occuper de nous. On s'occupera de nous. Ce sont les autres. Mais nous-mêmes, rien du tout. Merci. Le verset 19. Papa Célestin, est-ce que tu peux parler sur ce verset 19e ou sur un autre?
Oui, merci papa pour la parole. Je suis effectivement au verset 19. Et dans ce verset, l'homme qui a des grandes richesses, il s'est dit heureux. De son vivant, il a beau se dire heureux. Et heureusement que c'est lui qui se dit heureux. Mais quand Dieu le regarde, il le voit malheureux. C'est pour cela que le verset 21, le psalmiste ajoute un mot. Mais cet homme ne comprend pas. C'est pourquoi il va aller comme un simple animal dans la tombe. Effectivement, quand on ne connaît pas le Seigneur, on est animal. Rappelons-nous comment Paul pouvait dire que l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Effectivement, l'homme sans Christ, et c'est vraiment un animal, parce que la vie de Dieu n'est pas en lui. Mais nous savons comment nous devons être heureux. Le psaume premier nous parle de heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'assied pas sur le chemin de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voici l'homme que Dieu considère heureux. Alors, les autres peuvent beau se dire, heureusement que c'est eux qui se disent, mais quand Dieu regarde sur la face de la terre, il connaît qui sont heureux et qui sont malheureux. Amen. Avec des grandes maisons, avec beaucoup de biens, mais quand Dieu le regarde, ils sont malheureux. Quel avantage, quel plaisir de savoir que nous sommes parmi ceux qui sont les plus heureux sur la terre. Parce que notre vie est basée sur sa parole. Amen.
Mm-hmm. Merci beaucoup, pasteur, pour souligner ce verset qui parle des heureux. Et le verset 20, j'aimerais demander à certaines personnes d'entre nous qui n'ont pas levé la main, peut-être qu'ils ont la difficulté, ça m'arrive aussi. Je veux parler, mais j'essaye, ça ne monte pas. Alors, je veux demander à Papa José de Paris, est-ce que tu as quelque chose à dire au verset qui reste là, le verset 20 et le verset 21, ou même un autre verset, mais dire très rapidement.
Papa, merci beaucoup pour la parole. C'est-à-dire, tout ce que j'avais dans mon cœur que je voulais parler, déjà, je l'entendais sortir dans la bouche d'une autre personne. Donc, c'est une joie pour moi.
Oui, c'est une joie. Hein, gloire au Seigneur. Maman, Jacqueline, as-tu quelque chose?
Non, tout a déjà été dit. Je n'ai rien à ajouter.
Oui, merci. Est-ce l'avis de notre sœur Rosalie?
Oui, papa.
Mm-hmm.
Moi, je voudrais seulement souligner que vraiment Dieu nous aide à ne pas s'attacher à la richesse de ce monde, à ne pas être cupide. Que Dieu nous aide et avoir tout simplement les yeux fixés sur lui. Et à suivre ses commandements. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Bien-aimé, je suis obligé d'arrêter à donner la parole puisque nous allons vers 55. Ce que je vais dire ici, c'est ce que vous avez dit. Je résume en peu de mots la richesse de ce passage. C'est un passage qui nous montre que ici sur la terre, nous avons affaire au bien matériel, au bien de ce monde, qui nous ont été donnés par le Créateur. Parce que pour nous chrétiens, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous les a donnés. Quand nous considérons ce que la Bible nous dit à propos, par exemple, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est Dieu qui leur a donné. Job, cet homme-là, c'est Dieu qui a donné. Ainsi de suite. Même à Salomon. Salomon n'a pas demandé la richesse. Non! Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Mais à côté de cela, Dieu lui a donné la richesse. Voilà. Voilà. Dieu donne. Et comme il donne, nous devons être sages. Nous devons savoir que c'est lui qui nous a donné et nous devons le louer avec ça. Et nous devons penser à notre prochain qui n'a rien. Voilà. Nous pensons à Dieu le donateur et nous pensons à notre prochain qui n'a rien. Dieu m'a donné, c'est pour que je me donne à Dieu et je donne. Quand nous donnons à Dieu, nous ne voyons pas sa poche, mais nous voyons son église, nous voyons ses ministères, nous voyons ses serviteurs, et ainsi de suite. Nous le voyons. Et notre prochain qui est à côté de nous, il est là. Voilà, c'est ce que Dieu veut en nous donnant des richesses. Mais malheureusement, quand nous avons, nous voyons que nous avons le monde. Nous pouvons faire de notre richesse comme nous voulons. Nous voulons tuer, nous tuons, nous voulons faire ceci, nous faisons, ainsi de suite. Ça, nous devons savoir que quand nous partons, nous allons laisser. Tout sera resté. Comme nous sommes venus sans rien, nous partirons aussi sans rien. Or, notre devoir est de nous confier au Seigneur. Qu'il nous donne, qu'il ne nous donne pas, nous devons toujours le louer, le servir. Et lui-même, il sait, même en nous laissant sans beaucoup comme les autres, mais la vie que nous avons, c'est déjà quelque chose. Et nous louons Dieu avec cette vie-là. Et quand le moment viendra, quand on va nous déposer quelque part, Dieu lui-même prendra soin de nous. Et lorsque le Seigneur Jésus viendra chercher son Église, nous serons là aussi. Donc, bien-aimés, les richesses ne sont pas mauvaises, mais nous devons savoir comment nous devons nous conduire vis-à-vis des richesses matérielles. Que Dieu bénisse cette étude qui nous a beaucoup édifiés. Amen.
Amen.
Merci. Pour demain, nous allons... Oui, nous allons entrer à Apocalypse. Nous rentrons au Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 11. Apocalypse chapitre 4, versets 1er jusqu'au 11e. C'est ça la lecture de demain. Voilà, bien-aimés, nous devons nous arrêter ici. Papa Célestin, est-ce que tu as un communiqué à l'intention de la communauté?
Non, papa.
Ok. Nous prions le Seigneur très brièvement. Gloire à toi, notre Dieu. C'est toi le donateur de toutes choses. Les biens matériels en soi ne sont pas mauvais. Non. Les biens matériels sont là pour montrer que toi, tu as tout entre tes mains. Toi, tu enrichis. Parce que souvent, on a l'idée que c'est Satan seulement qui enrichit. Non, c'est faux. Dieu enrichit. Et quand tu enrichis, Seigneur, nous devons te connaître comme notre Créateur et surtout comme notre Sauveur. Nous devons aussi regarder notre prochain, puisque tu nous as enrichis pour que nous puissions l'aider, pour que lui aussi puisse bénéficier des biens matériels que tu as donnés à nous. Seigneur, merci pour cette méditation, pour ce chapitre 19, pour l'esprit que tu as donné aux enfants de Corée, aux fils de Corée, qui nous ont laissé cette richesse. À toi la gloire, à toi l'honneur, dans tous les siècles de siècles. Amen.
Amen. Amen.
Merci, merci beaucoup, bien-aimés.
Merci à vous.
À demain, donc, à la même heure.